Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
À en croire l'anthropologue et écrivain Georges Balandier, le mythe du labyrinthe serait parfaitement adapté à la fin du XXe siècle. L'humanité, ayant achevé dans les décennies et les siècles précédents sa découverte du monde, tant en termes d'exploration que de compréhension, l'enjeu pour elle serait désormais de sauvegarder la civilisation contre les forces de destruction qui la menaceraient. Ce chemin de courage, de droiture, d'imagination correspondrait au parcours de Thésée, aux prises avec les forces de destruction symbolisées par le Minotaure, dans un monde technicien qui serait à relier lui à la figure de Dédale. Le Dédale, c'est précisément le titre de l'ouvrage publié en mars 1994 par Georges Balandier, quelque temps avant la diffusion de l'émission que vous allez entendre dans un instant. Cet ouvrage, qui est sous-titré « Pour en finir avec le XXe siècle », est très éloigné dans son style et dans son propos des premiers écrits de l'anthropologue. Pour plusieurs générations de lecteurs, Georges Balandier demeure l'auteur de « L'Afrique ambiguë », publié en 1957, et de nombreux ouvrages consacrés aux questions de développement des pays pauvres. Ici, c'est la modernité qui devient le territoire d'exploration de l'intellectuel. Une modernité dont le déficit de sens et le rapport au sacré sont un perpétuel sujet de réflexion. Voici donc Georges Balandier au micro d'Olivier Germain-Thomas dans Agora, première diffusion de cette émission sur France Culture le 4 mai 1994.
Mon invité, un écrivain, insistons sur ce premier titre, anthropologue et sociologue, professeur à la Sorbonne, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous venez, Georges Balandier, après avoir publié « Le détour » en 1985, « Le désordre » en 1988, de publier aux mêmes éditions Fayard « Le dédale ». Vous m'avez signalé que les trois ouvrages qui forment un triptyque commencent tous les trois par la lettre D, et cela est probablement significatif. Si vous avez choisi le Dédale comme titre, c'est parce que, selon vous, le mythe du labyrinthe et donc du Dédale est le plus significatif de notre époque. Et vous ajoutez d'ailleurs dans cet ouvrage, Georges Balandier, que le XIXe siècle s'est beaucoup reconnu dans la figure de Dionysos, ce qui montre d'ailleurs combien les mythes grecs restent opératifs dans la période contemporaine, mais que, selon vous, le mythe le plus opératif, le plus significatif de notre temps serait celui de Dédale.
Oui, ce que je voudrais dire, pour aller dans votre sens, c'est qu'au bout du compte, chaque époque, dans le style qui est le sien, avec les problèmes qu'elle se pose, choisit une figure, choisit un thème mythique qui peut en quelque sorte éclairer ces questions qui lui sont propres. Le XIXe siècle, vous l'avez rappelé, a été marqué par la figure de Dionysos. C'est très curieux d'ailleurs, car après tout, le XIXe siècle se voulait rationaliste, conquérant par les techniques, marquant sa confiance dans le progrès, et dans l'avènement d'une humanité emportée vers le mieux par le progrès. Et Dionysos, c'est tout de même tout autre chose. C'est le dieu des transgressions, c'est le dieu de la puissance extrême, c'est le dieu auquel Nietzsche s'est identifié, au point de vouloir jouer lui-même à Dionysos lorsqu'il a commencé à sombrer dans ce qui nous est apparu comme un délire, une folie. Mais ce mythe-là, justement par les dépassements qu'il permettait, désignait tous les dépassements que le XIXe siècle s'était donné comme projet. Dépassement politique par la démocratie, dépassement matériel par le concours des techniques, dépassement dans la prospérité par le concours du commerce et de l'industrie avec les allégories que l'on voyait à cette époque. Alors, aujourd'hui, nous avons peut-être un peu l'impression d'être en panne de mythes. Moi, je commence cet ouvrage, le Dédale, en disant « Nous vivons de mythes opportunistes ». Je veux dire par là que les mythes que nous fabriquons, ce sont des mythes de circonstances et ne sont pas destinés à prendre, à faire racine ou rhizome et à nourrir notre culture et notre besoin de signification en longue durée. Ce sont un peu comme les objets de peu de valeur, mais d'utilité. que nous savons utiliser pendant une période et puis jeter ensuite. Alors, moi, j'ai essayé d'identifier dans notre héritage, dans notre tradition, et notamment dans notre héritage le plus fondateur, celui qui reporte aux Grecs, ce qui pourrait être ajusté à cette époque-ci. Et ce qui m'a semblé être le mieux accordé, et vous l'avez noté à l'instant, c'est le mythe du labyrinthe, avec certains des personnages, non pas tous, je n'ai utilisé qu'une partie des personnages que ce mythe porte avec lui, mais le mythe du labyrinthe, avec la puissance cachée du Minotaure, avec l'ingéniosité du technicien, Dédale, et avec l'obligation de celui qui doit faire œuvre de civilisation plus poussée, Thésée, de trouver le territoire, le passage possible à l'intérieur du labyrinthe et de mettre à mort la puissance sauvage qui peut menacer la civilisation. Alors je dis, dans notre univers, ça peut marcher très bien.
Ça fonctionne bien, effectivement, tout le monde sent, surtout depuis les pertes de sens que nous subissons, tout le monde sent que nous sommes dans une situation de tâtonnement sur tous les plans, religieux, politiques, sociaux, etc. Mais d'un autre côté, le labyrinthe implique qu'il y a un centre. Or, vous montrez bien aussi qu'un des signes de cette époque contemporaine, c'est qu'on ne sait pas où est ce centre.
Oui, le labyrinthe a un centre, mais il a aussi il met en place aussi des leurres, des tromperies. Il donne de faux indices.
Ah oui, plein de voies sans issue.
Il ouvre une série de voies sans issue. Oui. Et tout le problème du héros, de Thésée, dans le mythe grec, c'est justement de pouvoir lier, en quelque sorte, le commencement, l'ouverture et la fin. C'est-à-dire la sortie, l'issue. Eh bien, nous sommes un peu dans cette situation. Moi, je dis, ce mythe convient bien, parce que si nous continuons, un, nous serons très satisfaits de notre impuissance, et puis deux, nous finirons par nourrir notre impuissance par le sentiment que nous avons d'être dans de l'inextricable. Puisqu'on ne peut pas s'en sortir, alors laissons les choses se faire, elles nous donneront elles-mêmes leur sens, mais nous ne mesurons pas très bien à quel prix elles pourraient nous donner leur sens, si elles nous le donnent.
Alors, votre ambition qui est grande dans cet ouvrage, Georges Balandier, est d'essayer de mettre en application votre méthode d'analyse sur les différents domaines des connaissances sociologiques et anthropologiques d'aujourd'hui, notamment en ce qui concerne la société, l'imaginaire, par exemple, le sacré ou le politique, et d'essayer de trouver, justement, où nous en sommes dans ces différents secteurs de connaissances.
Oui, ce que j'ai tenté de faire, dans la suite, d'ailleurs, des deux ouvrages précédents dont vous avez fait mention, c'est une sorte d'exploration, non pas de tous nos territoires, mais de nos territoires qui me sont apparus comme les plus critiques, comme les plus importants à explorer. Au bout du compte, je n'ai pas changé de métier, je reste anthropologue. Mais il y a une bonne trentaine d'années, une quarantaine d'années presque maintenant, les territoires que j'explorais intellectuellement, émotionnellement, et avec beaucoup d'affectivité, oui, sûrement mise dans le jeu, étaient des territoires qui étaient réels, géographiques, des mondes extérieurs, n'est-ce pas, identifiables et cartographiables. Je dis maintenant.
Et notamment le tiers-monde.
Et notamment le tiers-monde, ouais. Et avec la prise de position que j'ai eue quant au tiers-monde dès la fin des années 50, en proposant avec Alfred Sauvy d'ailleurs. Ce terme tiers-monde pour désigner cet ensemble de pays en recherche de dignité et de développement. Bon, je dis maintenant, nous avons procédé à une sorte de clôture géographique du monde. Il n'y a plus d'exploration réelle à faire. Mais par contre, nous avons, avec notre activité dans tous les domaines, développé des nouveaux mondes qui sont des mondes artificiels. Ils viennent de notre créativité, de notre ingéniosité, de nos techniques, de notre imaginaire. Et ces mondes-là, nous ne sommes pas en mesure de les bien connaître. Il faut donc les explorer. Et dans la mesure même où nous ne sommes pas en mesure de les bien connaître, nous ne sommes pas à même de les bien maîtriser. Ce qui me conduit d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, à proposer une formule, dire, bon, au XIXe siècle, quand on était un tantinet progressiste, on pensait qu'il ne s'agissait plus d'interpréter le monde, on savait en gros ce qu'il est, et il s'agissait de le transformer. Mais il se trouve qu'à la fin du XIXe siècle, il faut retourner la formule. Le monde se transforme, avec nous, sans nous, contre nous, et il bouge à des vitesses fabuleuses. Alors maintenant, le problème, c'est justement de l'interpréter. Et je propose comme formule, comprendre, c'est faire. Et c'est là le début de mon affirmation. Ça n'est pas un jeu intellectuel. Comprendre, c'est faire. Quand on commence à comprendre ces mondes nouveaux, qui viennent de notre œuvre, de notre histoire, des 20-30 dernières années, en gros, n'est-ce pas ? Eh bien, on commence à avoir prise sur eux, à mieux s'y situer.
Vous êtes sûr que la prise de conscience, qui est en fin de compte un des dessins de votre ouvrage, nous permettra de mieux agir sur ce monde ?
J'en suis persuadé. La prise de conscience qui demande une compréhension plus claire, hein, c'est un effort d'interprétation de ce monde.
Vous croyez toujours que les grandes lignes de force du monde peuvent, en fin de compte, être conduites par la volonté raisonnable de l'homme ?
D'une certaine manière, pas trop loin, car je fais une critique du volontarisme politique, n'est-ce pas ? Qui a beaucoup coûté aux humains du 19e et encore plus du 20e siècle, car le volontarisme, c'est aussi l'enfermement dans les systèmes, et les systèmes conduisent à enfermer les hommes au prix de l'inhumanité. Alors, si le volontarisme est cela, non. Celui-là est totalement récusé, totalement rejeté. Mais si le volontarisme signifie qu'on tente de comprendre le lieu où l'on est, à l'époque où l'on est, actif, présent, et de faire quelque chose en ce lieu et en cette époque, alors oui, ce volontarisme-là, je le retiens.
Alors nous allons essayer d'appliquer, Georges Balandier, votre méthode sur deux points qui me semblent très importants, en sachant bien par avance que ce ne sont que deux territoires d'un vaste ensemble et où nous ne pouvons pas effectivement, au cours de cette rencontre, aborder tous les territoires parce que ce serait trop superficiel de les aborder chacun en quelques minutes. Exact. Alors il y a deux points que je voudrais retenir, il y a celui de deux points qui sont d'ailleurs peut-être dans une certaine mesure un tout petit peu liés de manière souterraine, qui est celui de l'imaginaire, parce que vous insistez beaucoup sur les nouvelles techniques, notamment celles du monde virtuel, qui vont faire en sorte que notre imagination, notre relation même au réel, va être complètement modifiée par rapport à ce qu'elle était, aussi bien dans la période mythique que dans la période qui a suivi. Et puis ensuite, j'aimerais bien vous interroger aussi sur le sacré, puisqu'il est évident qu'une des grandes pertes de sens de cette fin du siècle vient de ce que l'homme est déboussolé, n'ayant plus les systèmes religieux ou cosmogoniques pour expliquer le monde qui, auparavant, effectivement, le rassurait et l'enfermait dans un certain système. Alors, commençons par l'imaginaire et essayons de voir, alors, pour retenir ce que vous venez juste de nous dire, essayons de voir comment, à partir de l'analyse que vous faites de la situation actuelle, nous pourrons éventuellement agir dans un sens qui serait un sens favorable à l'homme.
Oui, c'est une question qui est redoutable, parce que si j'y réponds correctement, je semble proposer des remèdes, des thérapies.
Non, mais là, je vous ai presque pris à votre propre jeu, comprendre pour agir. Alors,
d'abord, tout à fait. Comprendre, c'est faire.
Voilà. Bon. Donc, première étape, essayons de comprendre l'état de notre imaginaire et l'état où va notre imaginaire, parce que c'est pas simplement la situation actuelle que vous analysez.
C'est les tendances.
Voilà, à partir de deux ou trois points très pointus de la science d'aujourd'hui, où nous allons.
Alors, je dis tout d'abord que l'imaginaire a perdu une partie de ce qui était la nourriture propice à l'imagination au long des siècles. Le rapport à la nature, dans la mesure où il est dénaturé, faussé, dans une large mesure artificialisé. Le rapport, disons, au sacré, mais nous y reviendrons, dans la mesure où il donne les significations ultimes qui permettent d'organiser à la fois la description du monde et l'orientation de sa propre vie, j'entends pour chacun des individus. Et puis aussi, se trouve perdu ce qui nourrissait l'imaginaire, qui était une relation vive au passé. N'est-ce pas ? L'histoire, on la vivait sur le mode mythique, jusqu'à une époque qui n'est pas si lointaine. Maintenant, nous vivons la relation à l'histoire sur le mode scientifique. Bon, c'est le travail des historiens, et ils le font bien, et ils ont raison. Mais ce qui me frappe davantage, c'est cette façon que nous avons d'être liés à notre passé par la commémoration. Comme si la commémoration nous tenait lieu de relations vives au passé. Alors qu'elle n'est qu'un traitement spectaculaire, dramatique, qui est dans le sens de l'époque d'ailleurs, du passé. De même, nous avons une sorte de frénésie patrimoniale. Après avoir laissé des choses embarquer, après avoir été dans la culture du jetable, ce que les Américains appelaient en un temps la culture du plastique, plastic culture, bon, nous essayons de retrouver le durable, dans les objets, dans les techniques, dans tout. Et nous faisons musée chaque fois que nous le pouvons, et nous constituons patrimoine. Mais c'est encore une relation assez artificielle au passé. Donc, ces sources de l'imaginaire de naguère, je ne dis pas qu'elles sont taries, mais elles sont déjà perverties. Elles fonctionnent autrement. Ce sont des sources un peu polluées, si vous voulez, par notre univers technologique
et machinique. Et à côté de ça, il y a de nouvelles sources.
Voilà. Alors, ouais. À côté de ça, il y a de nouvelles sources. Et pour moi, les nouvelles sources, elles sont de deux sortes. Il y a d'abord le fantastique de la science, dont nous n'avons pas parlé, à quoi vous n'avez pas fait allusion. Bon, c'est à moi de répondre sur ce point. Il y a le fantastique de la science. Il suffit de voir comment notre imagination peut fonctionner à partir de ce que nous proposent les astrophysiciens, les images qui viennent de l'espace. Enfin, cette façon que nous avons de construire un ailleurs, un univers ailleurs, que nous peuplons d'êtres quelquefois, que nous peuplons quelquefois d'êtres secourables, puisque certains ont déjà bâti des sortes de mythes du salut par des personnages qui seraient des non-humains venus d'ailleurs et nous apporter la sagesse que nous aurions perdue. Bon. Il y a ce fantastique donc de la science, mais il y a aussi le fantastique de tout ce qui touche aux techniques du vivant. Hein. Jamais l'homme ne s'est découvert dans sa condition biologique, physique, comme il le peut maintenant. Il y a toute une imagerie médicale, il y a toute une possibilité d'intervention qui fascine les hommes d'aujourd'hui. Donc, il y a ces sources-là d'imagine. Elles sont déjà, comme vous le voyez, profondément marquées par les instruments. Et puis alors, il y a d'un autre côté, et c'est beaucoup plus popularisé cette fois, tout ce qui tient au foisonnement des images, à la constitution d'une culture du regard, d'une culture du visible. Et là, ce qui nous emballe, ce qui nous emporte plutôt, ce sont les technologies qui ont la capacité, à partir de notre ingéniosité et de nos calculs, et de nos instruments, de produire des mondes dont nous sommes déjà peu maîtres. J'entends ici tout ce qui est lié aux images virtuelles et qui engendre la production de mondes virtuels à l'intérieur desquels des personnages peuvent intervenir alors qu'il n'y a pas de matérialité, alors qu'il n'y a pas de monde au sens où nous le concevions. Et c'est là où je vois à la fois une grande source, si vous voulez, de rajeunissement, de revigoration de l'imaginaire, mais en même temps une grande source de calamité possible. Car si on arrive à produire, et ça semble maintenant possible et pas très lointain, on fait d'échéance, si l'on arrive à produire des mondes entièrement construits, virtuels, qui sont aussi crédibles et peut-être plus crédibles et peut-être plus désirables que le monde réel où les hommes de chair sont installés, alors vous pouvez très bien concevoir dans quelles conditions de manipulation et d'emballement nous serons entraînés, par quelles conditions de manipulation nous serons poussés.
Ça, vous voyez un danger du fait que l'homme aura du mal à séparer ce qui est de l'ordre du réel ou de l'ordre du virtuel, et aussi pourrait être manipulé parce que ça éveillera un tel besoin et un tel désir qui sera manipulé par celui qui lui programme cet univers, voilà. Disons, absolument. Ce paradis artificiel, car ça pourra jouer comme une sorte de drogue, en fin de compte.
Ce sont... je ne sais pas si on peut former un mot comme imagotrope, comme il y a psychotrope, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Mais moi, le risque que je vois, vous voyez, c'est celui qui consiste dans le fait que peu de gens auront la capacité de contrôler ces mondes virtuels, alors que le grand nombre de nos compatriotes, à venir, dans les 10 ans, 15 ans... prochains, seront embarqués sans s'en rendre compte dans ces affaires. Mmh. Il y a donc une sorte de pouvoir extraordinaire qui sera d'un côté associé aux techniques et d'un autre côté aux techniques alors autres que celles de l'image. Et d'un autre côté une puissance qui se trouveront associés à la production d'images de monde virtuel.
Ce que vous dites là est assez terrible, Georges Balandier, parce que l'homme a vécu quand même sur l'illusion qu'il avait essayé, en détruisant certaines sources du pouvoir, que ce soit certains pouvoirs théocratiques que, en principe, le siècle des Lumières a essayé de défaire en instaurant un pouvoir, disons, démocratique ou étatique qui soit au service de tous. Puis quand il a été perverti, quand ce système d'État est arrivé à certains extrêmes et qu'il a été perverti, on a espéré justement, par un véritable retour à la démocratie, d'arriver à détruire un centre unique de pouvoir. Et voici que par la technique, en quelque sorte, un nouveau centre d'aliénation de l'homme peut menacer notre propre liberté.
Oui, c'est tout à fait ça.
Oui, ça prouve bien que l'aventure de la liberté de l'homme, c'est rien n'est donné. Non. Rien n'est donné du tout.
Elle est continuellement entretenue. Oui. Vous savez, il y a un thème qui est sous-jacent dans ce livre et qui soutient toutes les explorations que constitue chacun des chapitres. Ce thème, c'est celui de l'inachèvement. C'est cette affirmation, il n'y a pas pour les hommes de période de repos. L'histoire ne comporte pas de maison de retraite aimable. Oui. L'histoire, c'est une obligation de tous les instants, parce que dès l'instant où on relâche l'attention et la volonté d'intervenir dans les choses du présent, dans les choses auxquelles on a, dans le monde auquel on appartient, eh bien, s'embarque sans qu'il y ait de possibilité de recours ensuite. Sauf peut-être catastrophe pour de nouveaux départs.
Oui, c'est ça, on voit bien donc les variations des lieux du pouvoir. Le pouvoir n'est plus dans les mêmes endroits qu'il était auparavant.
Non, du tout.
Mais vous avez toujours un lieu de pouvoir qui essaie de dominer l'homme. Alors nous allons aborder, si vous le voulez bien, le chapitre 5, les retours et détours du sacré. J'aime bien ce titre et cette assonance entre retour et détour, parce que là vous touchez un des points fondamentaux, avec une question que vous ne posez pas de cette manière-là, mais j'ai envie de vous la poser en quelque sorte à ma manière, de savoir si, dans votre regard d'anthropologue, vous pensez, comme l'ont pensé certains, que l'homme va pouvoir se passer du sacré, du religieux, dans le siècle à venir, ou si, après avoir détruit une certaine forme de religieux, il va réinventer, retrouver une autre forme de religieux.
Non, je pense que l'homme ne peut pas se passer du religieux, pour utiliser une formule courte, rapide. Et pour une bonne raison, c'est que ce que nous appelons le religieux, c'est le territoire des significations, c'est le territoire du sens, c'est là où l'homme va chercher ce qui oriente.
C'est le sens plus la transcendance.
Oui.
Si on considère qu'il y a une sorte de religion laïque.
Sauf si on considère qu'il y a une sorte d'immanence, n'est-ce pas, qui fait que le sens est diffus et qu'il s'agit de trouver les lieux où il peut s'exprimer. Non, ce qui est frappant, c'est de voir que provisoirement, les dieux sont congédiés, en tout cas pour un très grand nombre de gens vivant aujourd'hui. Ce qui est très frappant aussi, c'est de voir à quel degré les églises instituées historiques à longue histoire sont en difficulté, et de quelque sorte qu'elles soient, et pas seulement celles qui nous sont proches, d'autres plus lointaines, ont les mêmes difficultés. Et en même temps, alors, à côté de cela, il y a une sorte de besoin d'attribuer du sens, de trouver des raisons de croyance. Et ce qui est surprenant dans une époque comme celle-ci, c'est que la croyance peut s'accrocher à des tas de choses. Elle peut s'accrocher à des objets, à des personnages, à des vedettes, à des signes de médiocre importance. Il y a une sorte de croyance diffuse, n'est-ce pas, qui circule comme cela et qui essaie de fétichiser le monde pour lui mettre un peu de sens. Mais je crois que ça n'est qu'une période intermédiaire. Et d'ailleurs, on peut trouver en correspondance avec cet état de choses toute l'importance donnée aux parasciences, à tout ce qui relève de la parapsychologie. Mmh. Vous savez, tous ces systèmes de savoir parallèles comme cela, eh bien, il y a là une recherche.
Alors, vous avez une bonne formule, d'ailleurs, ce propos. Vous dites qu'il s'agirait du chamanisme plus les machines de l'ère électronique.
C'est
tout vrai. En disant bien qu'il s'agit d'une formule, c'est-à-dire qu'il ne peut pas enfermer tout l'état de votre connaissance à l'heure actuelle. Et donc, effectivement, avec le chamanisme, on voit bien le désir d'entrer en relation avec les zones obscures de l'être et du monde.
De passer de l'autre côté du miroir.
On le fait avec les techniques d'aujourd'hui, c'est-à-dire les machines électroniques. Alors, vous vous appuyez aussi sur l'analyse de Junger, et notamment cet extraordinaire livre qui a été publié récemment aux éditions Christian Bourgois, Les Ciseaux, où Junger reprend le vieux thème et le vieux mythe des titans, montrant que nous sommes entrés maintenant, après la mort des dieux, annoncée par Hölderlin, que nous sommes entrés dans l'ère des titans, et que nous en avons, dit Unger, mais alors là, je crois que vous l'analysez comme étant une sorte de clin d'œil ironique, que nous en aurions maintenant pour un siècle.
Oui, c'est ce que Unger nous laisse entendre. Mais en même temps, il annonce le retour des dieux.
Pour le 22e siècle.
Oui. C'est là où est l'ironie.
Oui.
L'ironie est dans l'échéance.
Dans l'échéance. Oui.
Bon. Mais je ne crois pas que l'ironie soit dans la conviction.
Oui. Et votre position par rapport à ce schéma de Unger?
Je ne retiendrai pas le schéma sous cette forme, avec cette formulation. Mais je retiendrai cette idée qu'il y a du sens à recréer quelque part et qu'il faut travailler à cela. Bon, mais à quoi est-ce que ça peut conduire? Ça peut conduire aussi à des aberrations ou à des risques, à des dangers. Je pense que certains des fondamentalismes religieux ou des intégrismes religieux refont du sens au coup le plus bas, c'est-à-dire en simplifiant au coup le plus bas en termes de théologie. Et quelquefois au coût le plus élevé en termes de coûts sociaux.
On n'est pas dans un système de renouveau du sacré, on est au contraire dans un système de crispation sur des situations antérieures, parce que le monde moderne
est en déficit de sens.
Détruit la valeur prise à la lettre. Parce que ça ne veut pas tout dire que le monde moderne soit en opposition avec le fond même d'une religion, à partir du moment où elle est ésotérique. Mais quand il s'agit de constater que son aspect extérieur, il y a lutte entre le monde moderne et l'aspect extérieur du dogme.
Il y a cette lutte. Et si on voulait représenter topographiquement, n'est-ce pas, dessiner les espaces qui sont un peu ceux de cette époque, on pourrait dessiner un espace du religieux au sens classique, où se trouveraient présentes les églises établies avec leur enseignement, leur révélation et leur enseignement propre, n'est-ce pas, et les règles de conduite individuelles qu'elles formulent. Bon, ce serait un espace un peu en train de se rétrécir, hein, n'est-ce pas, de s'amenuiser. Il y aurait par ailleurs un espace qui, lui, serait en expansion, qui est l'espace des sciences avec tout ce qui s'accroche de non-rationnel, n'est-ce pas, de sens allant au-delà du sens purement technique, purement scientifique, purement pratique, et qui est un espace en expansion. Puis entre les deux, il y a toute cette recherche, toute cette zone, tout ce territoire de recherche confuse où les croyances essaient de faire nourriture de ce qu'elles trouvent. Alors, ça peut être des choses d'une grande futilité lorsqu'on va retrouver des spiritismes pauvres, issus d'ailleurs d'un 19e siècle machinisme qui avait déjà machinisé le spiritisme. Mais ça peut être quelque chose de plus déconcertant et qui retrouve la formule qui est bien liée à la formule que vous évoquiez à l'instant. Je pense à ces territoires dits de la transcommunication, où on cherche la communication avec des êtres d'ailleurs dans le passé et d'ailleurs dans l'espace, dans la géographie. Alors, non plus en faisant tourner les tables ou en faisant parler les esprits par des signes sonores ou des signes d'autre sorte, mais en utilisant la machinerie la plus complexe, en mobilisant les ingénieurs techniciens de la communication pour essayer de capter ces langages, ces enseignements, qui viendrait d'ailleurs d'hier, d'avant-hier, d'il y a longtemps, ou qui viendrait d'ailleurs d'autres univers.
Alors, est-ce que vous pensez que tous ces phénomènes que vous analysez, que ce soit ceux du New Age, qui s'appuie d'ailleurs beaucoup sur le psychologisme, ou bien alors ceux dont vous parliez maintenant, qui s'appuient un peu plus sur des pseudo-connaissances scientifiques, vous pensez que ce sont des phénomènes qui, en fin de compte, existent aujourd'hui et vont finir par se dissoudre, ou bien au contraire qu'ils vont prendre de plus en plus de place?
Bon, vous savez, ces phénomènes erratiques ont toujours existé. Mais
il gagne sur la masse.
Voilà.
Oui.
Voilà.
Avec le poids des sectes. Oui. Voilà.
Ce qui est nouveau, c'est l'extension. C'est l'expansion que ces phénomènes connaissent.
Oui, parce que l'étape tournante de Victor Hugo, c'était liée à une petite société
société très distinguée, d'ailleurs.
Oui. Tandis que maintenant, on peut toucher 10 millions de personnes par une soirée de télévision, avec parfois, d'ailleurs, des affaires extrêmement farfelues,
On peut faire mystère.
De mysticisme de bas
étage. On peut faire mystère de choses très simples et très fausses en même temps. Non, ce qui me frappe dans ce domaine-là, c'est qu'il y a une recherche où vers où comme l'on dit. Je n'en sais rien, mais il y a une recherche.
Ben voilà, la prudence du savant, du scientifique, de l'historien, de l'anthropologue.
Et du non-prophète.
Voilà, et j'avais donc le plaisir de recevoir Georges Balandier pour son dernier ouvrage, Le Dédale, avec comme sous-titre « Pour en finir avec le XXe siècle » publié aux éditions Fayard, un ouvrage qui est écrit dans une langue claire. Vous en êtes rendu compte d'ailleurs par les propos tenus par Georges Balandier. Cela fait plaisir parce que j'ai parfois reçu anthropologues, des linguistes aussi, mais là il n'en était pas question, ou des sociologues qui avaient l'habitude de parler dans un affreux jargon. Et là, au moins, nous avons entendu du français. Donc je renvoie à cet ouvrage et je précise que nous n'avons pu aborder ici, et c'était bien le sens de cette rencontre, que quelques petits aspects de cette vaste étude. Ainsi se termine Agora, une émission qui vous était proposée par Olivier Germain-Thomas, collaboration technique Jean-Claude Gauthier, réalisation Nicole Valeron.
C'était l'anthropologue et écrivain Georges Balandier au micro d'Olivier Germain-Thomas dans Agora, première diffusion de cette émission sur France Culture le 4 mai 1994.